Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jocelyne Moussa-Opondé.
La révision du code minier au cœur des échanges ce mardi entre le président Kabila et les opérateurs miniers. Ces derniers s'opposent à ce projet de loi pourtant soutenu par près de 40 ONG qui demandent sa promulgation. Insécurité à Djougou en Ituri, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité est déposé au chef-lieu de cette province pour évaluer la situation et y répondre rapidement. Encore une interdiction d'importer certains produits manufacturés, dont le ciment gris, le sucre et barre de fer. Notre invité, le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, nous en parle dans la seconde partie de cette édition. Bonjour à tous. Le code minier révisé est au centre de tous les enjeux. La quasi-totalité des responsables miniers ont, dans deux correspondances, saisi le président de la République. Ils s'opposent en effet à certaines dispositions de la nouvelle loi minière, notamment la hausse de la redevance minière de 2 à 10%, la réduction de certains avantages douaniers et la suppression de la clause de stabilité de 10 ans. C'est-à-dire pour eux, le nouveau code minier peut être révisé à tout moment. En réponse à leur correspondance, le président Joseph Kabila a accepté de les recevoir aujourd'hui. De leur côté, les organisations de la société civile œuvrant dans la promotion de la gouvernance des ressources naturelles en RDC adressent elles aussi une lettre ouverte au président de la République. Ces organisations, 38 au total, lui demandent tout simplement de promulguer la loi portant révision du code minier. Daniel Tambisoni pour plus de détails.
Pour ces 38 ONG, l'adoption de ce texte au Parlement constitue l'aboutissement du processus de révision du code minier débuté en 2012 par le gouvernement, soutenu par la société civile. Les signataires de cette lettre font savoir que le Parlement avait transmis le code révisé auprès du cabinet du président dans le délai constitutionnel de 6 jours. Et puisque la loi transmise n'a pas été renvoyée au Parlement pour une seconde lecture ou qu'aucune procédure de saisine de la Cour constitutionnelle n'a été initiée dans le délai constitutionnel de 15 jours, ce délai étant largement dépassé, ces organisations signataires plaident pour l'adoption de l'article 140 de la Constitution. Henri Mouya est secrétaire exécutif de la CERN, structure de la CENCO.
Depuis son adoption au Parlement, il a été transmis auprès du président de la République, je pense le 27 janvier 2018. Et maintenant, nous sommes déjà au mois de mars. La quinzaine de jours est déjà dépassée et nous pensons que le président peut promulguer cette loi.
En effet, l'article 140 de la Constitution dispose que le président de la République promulgue la loi dans les 15 jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137. À défaut de promulgation de la loi par le président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.
Maître Aimé Kilolo, avocat au barreau de Bruxelles et expert sur les questions de droit international, abonde dans le même sens que ses ONG. Pour lui, le code minier révisé ayant obtenu un consensus national lors de son réexamen au Parlement, le président de la République n'a pas d'autre choix que de les promulguer. Cette loi, ajoute-t-il, respecte l'équilibre entre les intérêts des investisseurs internationaux dans le secteur minier et ceux du peuple congolais. On l'écoute au micro de Pelikipe Lamondo.
Le code minier a fait l'objet d'un vote à la majorité écrasante. Ceci veut donc dire qu'il s'agit d'abord d'un consensus national qui s'est dégagé au-delà de tout clivage politique. Mais c'est aussi la volonté et la souveraineté du peuple qui s'est exercée en vertu de la Constitution. Deuxième chose, je dirais que c'est l'indication, avec ce nouveau code minier, de la nécessité d'un rééquilibrage dans les relations entre les partenaires internationaux et le peuple congolais. Autour, bien entendu, du respect de l'environnement et de l'écologie pour les populations locales, mais aussi sur la nécessité d'une formule gagnant-gagnant qui permette au peuple congolais aussi de bénéficier de ses richesses naturelles. En ce qui concerne l'audience accordée par le chef de l'État, je n'en connais pas évidemment la teneur, mais il va de soi que cela ne peut que procéder de la responsabilité du gouvernement de continuer à maintenir et poursuivre le dialogue constant qui a toujours existé avec les partenaires internationaux.
L'actualité, c'est aussi la reprise hier lundi du trafic ferroviaire entre la RDC et l'Angola. C'est là, après 34 ans d'interruption, ces trafics va relier le port de Dilolo dans le Lualaba et celui de Lobito en Angola. Il va permettre le transport de minerais et autres marchandises produits dans le Grand Katanga. À en croire le directeur de cabinet du président de la République présent à la cérémonie de reprise, ces trafics ferroviaires présentent un grand enjeu économique pour la RDC. Néhémie Mulania a été joint au téléphone par Mimi Ngumba Mulongo.
Je pense que la signification exacte et importante de la cérémonie d'aujourd'hui est liée à l'enjeu économique de cette voie d'évacuation. Les miniers ont tout à gagner, particulièrement à partir du moment où ils pourront dorénavant évacuer leurs produits par la voie du port de Lobito et gagner en temps de par la réduction de la distance.
Vous vous rassurez que cette reprise de trafic ne va pas s'interrompre après quelques temps au regard des difficultés auxquelles la SNCC est confrontée?
Je ne pense pas. À ce moment où je vous parle, il y a déjà un accord qui est en voie d'être signé entre la SNCC et un investisseur qui lui va aider maintenant à aborder la phase 2, qui est la phase de la modernisation de la voie. Donc il faut plutôt être optimiste. Les conditions sont plutôt réunies pour attirer davantage de ces investissements, n'est-ce pas?
Autre nouvelle, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a lancé officiellement hier lundi, avec l'appui de l'UNICEF, l'exposition sur le cycle de l'eau au siège de cette agence de l'ONU à Kinshasa. C'est en prélude de la célébration de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars prochain. Une occasion pour le premier responsable de l'éducation RDC et le représentant de l'UNICEF de sensibiliser les élèves de différentes écoles de la capitale sur une meilleure connaissance et une utilisation rationnelle de cette denrée essentielle pour la vie. Jean-Pierre Elali, Coco, reportage.
L'eau, c'est la vie, dit-on. Non seulement elle recouvre 72% de la surface de notre planète, mais aussi elle est, selon les spécialistes, la boisson la plus consommée par l'homme, car le corps humain est constitué à 60% de l'eau. Son importance pour l'hygiène, y compris l'hygiène scolaire, est capitale. Cependant, cette nécessité semble être ignorée, surtout en milieu scolaire. C'est pourquoi, en lançant cette exposition, le ministre Gaston Moussemena rappelle devant une centaine d'élèves.
La présente exposition sur le cycle de l'eau est d'une grande importance pour les communautés en général et les élèves en particulier, dans la mesure où elle permet de cerner l'origine de l'eau, sa production, son processus de distribution et surtout la rationalisation de son utilisation. Mais attention, elle peut aussi devenir destructrice des vies humaines lorsqu'elle est polluée.
Le tout nouveau représentant de l'UNICEF, M. Gianfranco Rotigliano, tout en saluant la trilogie Eau, École, Santé, encourage les élèves à l'utilisation efficiente de l'eau.
Cette exposition est votre exposition. Apprenez ce que vous pouvez et soyez les ambassadeurs. Il faut convaincre vos parents, vos frères, tous ceux qui entrent en contact avec vous.
Notons que cette exposition est présente depuis 6 mois à Bukavu, au sud Kivu, à Kinshasa, et s'étendra sur 1 mois. Au cours de cette période, 25 000 enfants, 10 associations féminines et 5 000 enseignants auront bénéficié de messages clés sur les normes d'hygiène et d'assainissement.
Promotion et protection de l'industrie locale, c'est dans ce cadre que Jean-Lucien Boussa renouvelle l'interdiction d'importation de certains produits vivriers manufacturés. Les arrêtés du ministre d'État en charge du commerce extérieur ont été rendus publics hier lundi à Kinshasa. Parmi les produits concernés figurent le ciment gris, le sucre brun, la barre de fer, la bière et les boissons gazeuses. Pour cette autorité, cette mesure est une mise en œuvre de la politique du gouvernement qui vise à rendre efficace et dynamique le secteur productif. Ainsi, il lance un appel aux opérateurs économiques, il invite à investir dans différents secteurs en vue de répondre favorablement à la demande nationale. Jean-Lucien Boussa est au micro de Mimi Ngumba Mulongo.
Avons-nous ces potentiels, oui ou non? Nous avons ces potentiels. Avons-nous des industries dans ces branches d'activité concernées qui existent, oui ou non? Les industries dans ces branches d'activité existent. Ont-elles la capacité de pouvoir couvrir la demande nationale, oui ou non? Mais que oui. Est-ce que le secteur des ciments, le secteur des sucres, ces industries-là ont-elles la capacité de couvrir les besoins de la partie ouest de la République démocratique du Congo? S'agissant du ciment, oui. Nous avons donc dans le pays les capacités productives PEP nous permet de faire face à la demande nationale. Mais en même temps, la partie est du pays, où on n'a pas encore des cimenteries, où on n'a pas encore des sucrières à l'époque, il y avait Kidiba, mais nous sommes capables, les opérateurs économiques, au regard de la demande solvable, disponible, exprimée aux millions de consommateurs, les industries trouvent là un marché potentiel qu'ils doivent capter pour pouvoir finalement réaliser des bénéfices. Appel est fait aux opérateurs économiques privés pour investir dans les secteurs.
Vous suivrez le ministre d'État en charge du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussan, en long dans la seconde partie de ce journal, puisqu'il est notre invité ce matin. Je le dis en titre, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité est arrivé hier après-midi à Bounia en provenance de Kisangani. S'est confiant à la presse, Henri Movasakani a affirmé qu'il est allé évaluer la situation sécuritaire qui prévaut à Djougou dans le but d'y mettre fin. Il est accompagné du commissaire général de la police, le général Dieudonné Amouli Baïgoua. Les propos d'Henri Movasakani sont recueillis par Sadiki Aboubakar.
La province de Ituria a encore une fois été endeuillée. Les scènes macabres qui étaient sorties de nos mémoires sont réapparues. Et donc, il est question très rapidement d'évaluer la situation avec les autorités provinciales, de cerner la question et de ne pas laisser s'étendre cette zone d'insécurité. Donc, nous voulons prendre ce problème à bras-le-corps très rapidement par cette réaction d'autant d'autorités que vous voyez sur place. Mon collègue de la Défense est là et bien d'autres autorités. Pensons que ces forces coalisées pourraient nous aider à éradiquer très rapidement ces zones d'insécurité. L'Ituri est l'exemple cité par le chef de l'État qui m'envoie en mission aujourd'hui pour justifier l'application de l'article 2 de la Constitution congolaise, c'est-à-dire procéder au passage de 11 à 26 provinces. Le message, je le destine à nos compatriotes pour dire n'émuliez pas votre propre option, engagez-vous pour consolider cette province que vous avez toujours voulu et vous avez été les meilleurs défenseurs de la création de nouvelles provinces. Il n'y a pas mieux que la paix pour bâtir une province d'Ituri plus solide.
De son côté, le ministre de la Solidarité et Affaires humanitaires a lancé hier lundi à Bounia la distribution de l'assistance du gouvernement destinée à près de 20 000 déplacés de Djougou vivant à Bounia. C'était sur le site de l'hôpital général de Bounia. Cette assistance est composée de riz, de sel, haricots, ustensiles de cuisine, des matelas et des bâches. Direction le Nord Kivu. Les élèves de deux groupements de Nyamaboko dans le Massissi risquent de connaître une année blanche, comme c'était le cas l'année précédente. C'est la crainte exprimée par un membre du Parlement d'enfants de Kachébéré à Walikale. D'après lui, depuis le 22 février dernier, des déplacés en provenance de Nyamaboko, dont des élèves qui ont arrêté le cours suite à l'insécurité, arrivent par milliers dans cinq localités du groupement Waloa-Uroba dans l'est de Walikale. Ils fuient les conflits entre deux coalitions des milices. Au micro de Bernard Danyangi, André Ushindi Kango plaide pour une intervention urgente du gouvernement.
Il n'y a pas des activités scolaires qui sont en train de se dérouler dans Nyamaboko. Tout le monde a pris fuite, les enfants n'étudient pas et là où ils sont pris fuite, ils n'étudient aussi pas. Bon, on sait très bien que l'enfant est l'avenir de demain. Si l'enfant n'étudie pas, il devient une bombe de retardement dans notre pays et dans tout le monde en général. On a encore cette possibilité encore de reprendre ces enfants-là, comment ils peuvent encore intégrer les activités normales. C'est pourquoi pour nous, on a vu vraiment que les gouvernements peuvent s'impliquer et se partenaire pour que ces conflits-là puissent avoir une résolution et voir comment les enfants peuvent encore rejoindre leurs activités comme d'habitude.
Rappelons qu'entre novembre 2016 et mars 2017, Nyamaboko a vécu le premier épisode de ses conflits entre Luanda Buti et ses dissidents du FDC Guide. Depuis janvier dernier, le même conflit a refait surface. Et puis ce cri de détresse des parents de Georges Wello Osomba, cet enfant de 14 ans porté disparu une semaine après la manifestation de laïcs chrétiens du 25 février dernier à Kisangani et qui reste toujours introuvable. Georges Wello Osomba est un élève de la première année secondaire au complexe scolaire Vient et Voix de Kabondo à Kisangani. Les recherches entreprises par ses parents pour le retrouver n'ont abouti à aucun résultat. Il demande à tous celui qui aurait de ces nouvelles de pouvoir les contacter. Témoignage d'un de ses parents au micro de Jacques Moukonkolé.
L'enfant a quitté la mer, c'est pour se rendre maintenant à la marche, comme on nous a dit que c'était une marche pacifique. Mais depuis ce jour-là jusqu'à présent, l'enfant est introuvable. Nous avons cherché un peu partout jusqu'à présent. L'enfant n'est pas retrouvable. Alors notre souci est que vous puissiez nous aider, tout celui qui verra l'enfant là où il est, ou celui qui aura le message, qui ne puisse un peu nous informer que non, l'enfant est dans tel endroit, parce que nous sommes épuisés, nous ne savons plus quoi faire. C'est habillé en polo noir, Lacoste, pantalon jeans, avec des babouches qu'il avait. C'est comme ça qu'il s'est habillé. Effectivement, vous pouvez nous trouver sur 085 33 12 et 344. L'adresse de domicile, c'est sur 13e bis, Kabondo. C'est là où nous sommes.
Actualité Afrique Monde.
En Éthiopie, de nombreux commerces étaient fermés hier lundi à Addis Abeba. Les habitants entendaient protester contre l'état d'urgence imposé par le gouvernement depuis près d'un mois. Ils reprochent aux autorités de restreindre les libertés. En effet, depuis près d'un mois, les forces de l'ordre peuvent perquisitionner des domiciles, fouiller des véhicules, voire procéder à des arrestations, et ce, sans mandat judiciaire. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson entame ce mardi sa première visite en Afrique. Le numéro 2 américain sera sur le continent pendant une semaine et passera par le Tchad, l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya et le Nigeria. Officiellement, on parlera contre-terrorisme, paix, sécurité, promotion de la bonne gouvernance et renforcement des intérêts commerciaux. Nous entamons la seconde partie de cette édition avec le dossier du jour. Plus de 20 cadres et agents de l'Office congolais de contrôle au CCOVIR.